redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Quatrième série, les chroniques délinquantes de la vie en rose. Épisode numéro 1. Alors voici le mot d'Hélène Pedneau. Les chroniques délinquantes naquirent un soir de bouffe, de rire, d'alcool et probablement de pleine lune en septembre 1982. Les filles de La Vie en Rose avaient réuni quelques comiques de parté notoires chez Ariane Aymon parce qu'elles trouvaient que leur magazine était un peu sinistre et grave alors qu'elles étaient plutôt hilares la plupart du temps. Sauf quand elles croisaient le sexologue Jean-Yves Desjardins ou quelque autre individu peu recommandable sur la rue ou dans un colloque. Ce fut une soirée inoubliable. Illustratrices et écrivaines, tout aussi gratteuses de papier les unes que les autres, firent une répétition générale entre elles de ce que serait La Vie en Rose avec de l'humour. Après avoir été à deux doigts de refonder le magazine Croc, la boisson aidant, nous émîmes quelques suggestions qui avaient toutes en commun d'être plus baveuses les unes que les autres. Comme le libellé diffamatoire nous aurait pendu au nez à tout instant, nous nous calmâmes et retombâmes sur nos pattes comme nous pûmes. L'alcool nous étant tombé dans les jambes, nous étions devenues un peu approximatives. Nous éloignâmes, à grand renfort de verre de vin, les visions de poursuites judiciaires où La Vie en Rose était traînée devant les tribunaux par les cheveux pour avoir trop ri dans ces pages de nuisances publiques qui, eux, n'étaient jamais drôles. Moi, j'étais la petite nouvelle. J'avais écrit dans les trois derniers numéros seulement, je ne connaissais presque personne. Mon premier papier, une nouvelle intitulée « Médisance », parut en mars 1982. Je n'étais pas de ces folles du début, ces irréductibles gueulardes qui avaient déjà sévi dans le comité de lutte pour l'avortement et qui avaient certainement décidé de fonder La Vie en Rose un autre soir de beuverie. Je venais d'avoir 30 ans, j'avais encore l'avenir devant moi et la pureté dans les yeux. Le dernier papier que j'avais écrit était une critique grinçante de leur célèbre numéro sur l'amour avec lequel j'étais bien loin d'être d'accord. Elles l'ont publié dans leur section « Commentaires ». Ça s'appelait « Y a-t-il une amoureuse dans la salle ?» Sans le savoir, je venais d'ouvrir le bal de la délinquance. Ce soir-là, nous nous hélâmes sans relâche d'un bout à l'autre de la longue table en parodiant mon titre, lui-même étant une parodie du non moins célèbre « Y a-t-il un médecin dans la salle ?» La parodie de la parodie, je savais bien que j'étais postmoderne quelque part. « Y a-t-il un cendrier dans la salle ?» me criait-on quand on avait besoin de l'objet en question. « Y a-t-il une assiette dans la salle ?» quand on avait besoin de nourriture pour annuler les vapeurs de l'alcool afin de pouvoir continuer de boire ensuite en toute quiétude. « Y a-t-il une cigarette dans la salle ?» quand la nicotine lançait son appel d'orignal en rut. Rappelons-nous cette époque divine et révolue où il était encore permis de répondre publiquement à l'appel de la cigarette sans se faire casser les deux jambes. Bref, après que nous eûmes épuisé tous les « y a-t-il » que nous avions sous la main, quelqu'une, je ne sais plus qui, qu'elle se lève si elle est dans la salle, tonitrua « Et pourquoi on ne ferait pas une chronique comique qui aurait toujours comme titre « Y a-t-il quelque chose dans la salle ?» Sur ce, j'ajoutais, intempestive comme à mon habitude, « Et je veux que ça s'appelle la chronique délinquante !» Voilà, c'est ainsi que nous fîmes, sans savoir que cette chronique durerait presque 5 ans. Et comme disait l'autre, « Vous fîtes ce que vous putes !» Nous partîmes ce soir-là chacune de notre côté, qui en taxi, qui à pied, à vélo ou à quatre pattes. Nous n'avons pas cessé de rire depuis ce temps. Et ça n'est pas près de finir, même si La Vie en Rose nous a quittés pour ne plus revenir en mai 87. Dans le numéro suivant, de novembre-décembre 82, j'écrivis « Y a-t-il un bébé dans la salle ?» Ce fut la première chronique délinquante officielle. Je croyais n'avoir jamais écrit ce genre de texte, et pourtant, je tombais un jour de ménage sur un de mes tout premiers textes, au Progrès Dimanche de Chicoutimi, là où je commençais à sévir comme journaliste en 73. Le papier jauni s'intitulait « Comment vivre incognito ou le mariage de la princesse Anne ? » Le voici, en numéro 0. C'est l'ancêtre de la chronique délinquante. Comme quoi il semble bien que, au cours d'une vie, on passe son temps à ne dire qu'une seule et même chose. Manifestement, moi, c'est non. Ma mère avait bien raison, comme toujours, quand elle me menaçait sans arrêt de m'envoyer à l'école de réforme. J'avais vite compris que la délinquance d'esprit était bien plus dangereuse que celle qui choisit le vandalisme. Ce qui ne m'a pas empêché, dans ces 40 chroniques, de tirer des roches, de casser des vitres, de dégonfler des pneus, de dire des gros mots et de crier des noms. Et même s'il y a des choses que je ne formulerai plus de la même façon 6 ans plus tard, je persiste et je signe. Hélène Pedneau. Postscriptum. Je dois rendre hommage ici à deux personnes qui m'ont précédée dans l'humour à la vie en rose. Il s'agit de Sylvie Dupont, l'une des fondatrices qui signa Les Entrefilets au poivre dès le troisième numéro en septembre 80 jusqu'en mars 83, et de Monique Dumont qui signa Les Us qui s'usent jusqu'en mai 83. Leur humour corrosif et leur conscience sociale et politique aiguë furent des modèles pour moi. Leurs chroniques sont des bijoux du genre. Je vous en recommande la lecture. Faites passer le mot. Sortez vos vieilles revues. Parce que vous ne les avez pas jetées, n'est-ce pas ? Ce sont maintenant des pièces de collection. Note. Petit 1. Pour vous rafraîchir la mémoire, sachez que La vie en rose parut, pour la première fois, en septembre 1980, en inséré dans le défunt magazine Le Temps fou. Elle en fut locataire pendant un an, le temps de 4 numéros, puisqu'elle était alors trimestrielle. Sur les plans administratifs et rédactionnels, elle était cependant totalement indépendante du Temps fou. Le premier numéro solo, le 5e, parut en mars 81, avec Donalda en page couverture. Elles avaient déjà manifestement décidé de s'attaquer aux grands archétypes du Québec. En septembre 82, elle devint bimestrielle jusqu'en septembre 84. C'est alors que La vie en rose devint mensuelle. Menstruelle ? Nous inaugurâmes la mensualité avec un numéro sur le pape, encore un archétype qui a la vie dure, qui nous valut des regards de tristesse et de réprobation de la part de toute la colonie journalistique qui fut atteinte massivement par la grâce lors du court séjour très coûteux de Jean-Paul II au Québec. Heureusement que Nathalie Petrovski a réussi à pousser quelques fausses notes de son côté. Le dernier numéro de La vie en rose parut en mai 1987. Petit 2. Pour réaliser la couverture de ces chroniques délinquantes, j'ai choisi Nicole Morisset, et ce n'est pas du tout par hasard. Elle est d'abord une amie, mais elle a aussi été illustratrice et directrice artistique à La vie en rose du tout début, en 80, jusqu'en mars 84. Son dernier travail graphique ayant été le numéro spécial sur Simone de Beauvoir. C'est elle qui avait trouvé la toute première illustration des chroniques, le petit Tire-Roche. J'ai voulu qu'il soit là, avec elle. Chronique numéro 0. Comment vivre incognito ou le mariage de la princesse Anne. Ceux qui ne savaient pas qu'Anne d'Angleterre prenait Marie mercredi dernier sont capables de résister à tout assaut publicitaire, même à celui de J.E. Prudhomme avec son bingo Mons électronique. Les photographes et les journalistes des pays complétant la carte du monde autour de l'Angleterre, qui se faisaient nombrer depuis quelque temps, ont suivi fouineusement les réactions des deux fiancés, les périodes de fin de mois d'Anne, les regards veloutés du berger devenu faux-bourdon et la ménopause d'Élisabeth. Une rumeur persistante, venant de sources bien informées, voudrait que le reste du monde ait continué de s'entrecracher dessus malgré tout. Paris Match consacrera ses prochaines 156 photos de première page à cet événement. Ils avaient déjà un solide penchant pour la monarchie britannique. À bonne heure mercredi matin, les amateurs de contes de fées pour payeurs d'impôts s'extasiaient, la bouche encore pâteuse, devant les attelages rutilants des chevaux traînant carrosses et aristocrates. Les chevaux ont impressionné plusieurs spectateurs, selon les échos entendus de témoins matinaux ou couche-tard, selon le cas. La princesse Anne arborait toujours cette magnifique dentition devenue légendaire chez la famille royale. Son sourire y prenait place subtilement. Les fastidieuses répétitions des deux jours précédant le mariage ne semblent pas avoir affecté outre mesure les délicats patriarches parchemineux qui ont suivi très bien, malgré leur âge avancé, la longue allée de l'abbaye de Westminster pour guider les deux fiancés myopes. On a remis les archevêques dans le formol tout de suite après la cérémonie pour les conserver jusqu'au mariage du prince Charles. Bref, une cérémonie réussie, bien que le désir de la princesse de passer incognito n'ait pas été respecté. Elle n'aurait jamais dû porter une aussi longue traîne. Les trompettes stridentes ont dévoilé le secret très vite et un réseau de publicité subversive avait averti la population qui s'était massée sur le parcours du cortège. Dorénavant, les Anglais pourront prendre leur thé dans une tasse à l'effigie du nouveau couple royal, jeter leurs cendres de cigarettes sur la face souriante d'Anne et de Marc et rêver que Charles choisira sa fiancée dans leur famille. Fiancée qu'on s'empressera d'anoblir, parents compris. La voix de l'inévitable Henri Bergeron, toujours choisi pour les événements de même acabit, nous a fait saisir toute la simplicité de ce mariage. Mais Avait-on besoin de nous faire remarquer « Appelez-moi Lise » pour retransmettre une seconde fois cet événement dont la conséquence, à courte et à longue échéance, sera de faire augmenter le taux de jalousie sociale et de donner aux revendications ouvrières une ampleur qui n'a jamais réussi à aucune monarchie. Mais les Anglais sont bien trop gentlemen pour faire sauter leur plus grosse industrie touristique, la famille royale. Dans Le Progrès dimanche, Chicoutimi, 1974.
Chaque numéro de La Vie en rose avait un thème, c'est-à-dire que ça renvoyait au grand sujet du mois, là. Alors, on a publié un numéro en février 82, je crois, il faudrait que je vérifie, sur l'amour. Et elle a réagi brillamment parce que c'était vraiment un four. Je veux dire, elle réagissait au fait qu'on réagissait en parfaite militante à quelque chose qui n'est pas du tout militant. C'était peut-être un peu mieux que ça, là, mais il y avait certainement de ça, parce que nous, on procédait en collectif, en comité de rédaction, etc. Donc, il y avait beaucoup de soldats du mouvement là, dans nos parages, là, et du mouvement des femmes. Et elle avait réagi et elle avait titré son truc « Y a-t-il une amoureuse dans la salle ?» Et voilà, une grande chroniqueuse, une grande chronique est née à partir de ce moment-là. À partir de là, on lui a demandé à tous les mois une chronique qu'on a appelée la chronique délinquante. Et elle a fait un tabac avec ça. C'était vraiment génial.
Chronique numéro 1. Y a-t-il une amoureuse dans la salle ? Suite à votre numéro « L'amour, toujours l'amour » de juin dernier, je vous signale une certaine quantité d'oubli. C'est peut-être à cause de ces oublis qu'à la fin de la lecture, l'amour avait l'air d'une notion. Comme je n'avais personnellement jamais vu l'amour sous cette forme, je vous dois un grand moment de stupeur, ce qui n'est pas à dédaigner dans le genre de vie que je mène. Je suis restée figée sur place pendant au moins 20 minutes, ce qui ne m'était pas arrivé depuis ma dernière rupture en janvier 79. Ensuite, j'ai crié sans un mot « Y a-t-il une amoureuse dans la salle ?» Ensuite, j'ai tenté de savoir comment on pouvait redonner du sentiment à une notion sans faire de sentiment. Après tout, aujourd'hui, on fait du son avec ses yeux à surveiller des aiguilles sur des cadrans plutôt que d'utiliser ses oreilles. On marche avec des roues, alors peut-être bien qu'on aime avec autre chose que le cœur et son réseau. Quand je me bute à une notion, je deviens très complexe à suivre étant donné que mon grand-père maternel était italien, napolitain de surcroît et sûrement spécialiste du mélo, je dirais génétiquement. L'Italie est proche en moi. C'est dangereux pour la suite parce que je m'en viens vous dire que je suis amoureuse là, tout de suite, au moment où je vous parle, et que si j'avais affaire à une notion, je ne ferais pas affaire avec une chose qui me dépasse. Suis-je un cas qui relève de la pathologie, de la guimauve ou de la débilité ? Je suis un être primaire. J'éprouve encore malheureusement des choses vulgaires comme la jalousie, la peur du rejet ou de l'abandon, les accès de possessivité, l'ennui, les palpitations, l'envoûtement, l'asphyxie, les montées de pression, enfin tous ces petits mots qui font de belles grandes taches sur l'amour et qu'on voudrait bien voir partir avec des théories, suractivées ou aux enzymes. Il me manque probablement quelques réincarnations avant de m'élever. Ça me prend encore de la chair autour de l'os. Par ailleurs, je considère que ce numéro sur l'amour est brillant, pratiquement d'un bout à l'autre. Je note l'éditorial, qui est une merveille, l'article de Brigitte Soriol, ceux de Francine Pelletier et de Jovette Marchesso en particulier. Mais l'état amoureux, le plaisir de voir, d'entendre et de toucher, l'état amoureux sensoriel, les pulsions, les moments de bien-être absolu et les fréquentes fins du monde, le temps amoureux, qui se languit dans 5 minutes ou passe à la vitesse de la lumière dans 1 semaine, le ventre, le cœur et les artères, la mort, l'oubli et les obsessions. Mais quand on aime comme on respire, les gens prennent ça pour une maladie respiratoire, disait Gary. Dans l'état amoureux, il peut y avoir aussi des chats, de la musique, des chansons, des livres, du rire, des oranges, du vin et de la cuisine italienne. Mais chat et moi, nous nous aimons follement, personne ne peut le contredire. Alors, l'amour. Je vous donne un gros plan d'une sorte d'amour, un certain jour, à une certaine heure. Ça ne se répète jamais dans les mêmes formes. Gros plan. Le baiser du 20 avril 1979. Nos bouches étaient si proches que le baiser devait être commencé depuis longtemps sans qu'on le sache. Tu as cassé un mot en miettes pour me dire « embrasse-moi ». C'est sûr que le baiser était déjà vivant quand tu as dit « embrasse-moi ». C'est sûr qu'il était évident. C'est sûr que moi, je n'ai rien dit. J'ai regardé tes yeux de plus près en fronçant vaguement les sourcils. Je suis arrivée à tes lèvres facilement. C'était le plus court chemin. Les yeux sont le plus court chemin d'une bouche à l'autre. C'est géométrique, le théorème le plus compris au monde. Je n'ai pas touché tes lèvres tout de suite, même si j'en étais tellement proche qu'une feuille de papier de soie n'aurait pu passer entre mes lèvres et les tiennes. J'en ai fait le tour, lentement. Ma bouche respirait, entr'ouverte, sa pareille. Ce fut long. De la longueur du temps amoureux, je ne pouvais plus quitter tes yeux, ma bouche continuait sa lente reconnaissance. À force de se respirer, nos lèvres ont séché. J'ai mouillé doucement tes lèvres avec ma langue et j'ai mouillé ensuite mes lèvres sur les tiennes, lentement. C'est à ce moment-là que nos lèvres se sont jointes, comme deux morceaux de puzzle. C'est à ce moment-là que nous avons appris le baiser qui se vivait entre nous. On ne se touchait pas d'ailleurs, que des yeux et de la bouche. Pourtant, nous étions liquides. Pourtant, des mains nous poussaient dans le ventre et allumaient des tisons un à un dans le réseau du sang. Même par la bouche, un seul système respiratoire, insatiable, inopérable, incurable. Nos lèvres bougeaient sans se perdre une seconde. Nos langues bougeaient, emprisonnées. Mais nos corps ne bougeaient pas. Ta tête contre le coussin du sofa, moi, penchée sur toi. Je ne sais plus comment nos lèvres ont réussi à se séparer. Je me souviens que nous avions le souffle court et que nos poitrines se soulevaient presque à se toucher, au même rythme. Il y avait des sons dans nos bouches, des haches aspirées surtout, des petites brises qui se perdaient à l'intérieur des joues. Il n'y avait pas tellement de ces bruits mouillés qui caractérisent les baisers avides, passionnés. Nous étions pourtant avides, mais nos yeux étaient savants dans l'art de nous orchestrer. C'est peut-être cette fois-là que je t'ai raconté avec le plus de détails que je t'aimais. Dehors, c'était le mois d'avril. Septembre-octobre 1982. Chronique numéro 2. Y a-t-il un bébé dans la salle ? Madame Jeannette Bertrand, émission « Jeannette veut savoir », Télémétropole, Montréal. Chère madame, les grandes personnes sont vraiment très bizarres. Les bébés qu'elles font les embarrassent et en même temps, elles ont l'air de courir après leur propre enfance. Elles n'ont certainement pas de mémoire pour vouloir revenir à leur enfance. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'en sortir. C'est extrêmement stressant d'être une enfant dans une société qui est surtout faite pour les autos, d'après ce que je peux voir. Il paraît qu'on ne se souvient presque jamais pour nous-mêmes de notre enfance. J'entends ma mère questionner ma grand-mère sur l'enfance de mon père, parce qu'elle voudrait comprendre pourquoi mon père est comme ça aujourd'hui. Ça a l'air d'être très compliqué. Ce qui me mêle le plus par rapport à mes parents, c'est quand mon père appelle ma mère « maman », comme moi, et que ma mère appelle mon père « papa », comme moi. Est-ce que mon père est mon frère dans ce cas-là ? Est-ce que ma mère est ma sœur ? J'ai remarqué que quand ma mère est choquée après lui, elle appelle mon père « Philippe ». Et quand elle n'est pas choquée, elle l'appelle « papa ». Ça doit être très important. Ce qui me mêle encore plus, c'est quand mon beau-frère Claude appelle ma sœur « bébé ». Et mon autre sœur Catherine fait la même chose avec son chum, Jacques, qui pourtant mesure 6 pieds et pèse 200 livres. Est-ce qu'il y a une grosseur limite pour appeler quelqu'un « bébé » ? Est-ce que le mot « bébé », c'est comme le mot « Kodak » qui décrit tous les appareils photo avec la même marque ? Est-ce qu'il y a un âge limite pour appeler quelqu'un « bébé » ? C'est à n'y rien comprendre. J'ai remarqué que c'est des gens mariés ou qui sont amoureux qui s'appellent comme ça, et je crois qu'il faut qu'ils dorment dans le même lit, sinon ça ne marche pas. Il y a deux filles qui habitent en haut de chez nous, et elles s'appellent bébé quand elles sont toutes seules. Je les ai entendues par la fenêtre ouverte quand je jouais dans le sable. Est-ce que tout le monde peut s'appeler bébé ? Deux gars aussi ? Est-ce que tous les habitants du monde s'appellent comme ça dans leur langue ou c'est juste les gens de Montréal ? L'autre jour, j'ai essayé d'appeler ma sœur bébé et elle n'a vraiment pas aimé. Ça fait vraiment beaucoup de questions à répondre pour vous, mais il paraît que je suis dans l'âge des questions. Alors je n'y peux rien, ça me prend des réponses. Si vous pouviez faire vite, j'en serais très heureuse car nous préparons un congrès d'enfants pour le mois de février et je ne voudrais pas qu'on soit infiltré par des faux bébés avec des barbes et des soutiens-gorge. On est déjà assez infiltré comme ça par nos parents. Peut-être que je vais proposer d'appeler tout le monde en bas de 6 ans par un autre nom que bébé et faire enregistrer le nom pour que personne l'utilise. Il paraît que des madames de Paris ont fait ça avec leur nom de MLF et que ça marche. Un vieux bébé qui se veut du bien et qui veut savoir. Hélène Pedneaux, 7 ans et demi. Novembre-décembre 1982. Chronique numéro 3. Y a-t-il un âge d'or dans la salle ? Le Front de libération des âgés du Québec usé et écœuré, FLAC. Communiqué numéro 1. Par les présentes, nous voulons communiquer notre désaccord profond sur le terme orifère accolé au mot « âge » dans l'expression aussi creuse que blessante « âge d'or ». Premièrement, nous n'avons vraiment pas les moyens d'endosser un qualificatif aussi coûteux, étant des citoyennes bassement évaluées, et, d'autre part, nous sommes persuadés que la moyenne des gens entend « âge d'or », ce qui est tout à fait faux vu que nous n'avons plus besoin de beaucoup de sommeil et que les personnes qui dorment ne sont pas celles qu'on croit. Nous remarquons, malicieusement c'est de notre âge, que nos principaux dirigeants locaux et mondiaux font tous partie, de par leur âge justement, de cet âge d'or dont ils font semblant d'être loin. Ils compatissent alors que nous pâtissons. Pensons à messieurs Lévesque, Trudeau, Drapeau, Reagan, Jean-Paul II. La majorité des pays sont dirigés par des vieux, n'ayant pas peur des mots, qu'on soupçonne, à raison plus qu'à tort, de sénilité précoce ou de lifting à répétition. Comment se fait-il que ces vieux ne fréquentent pas le club de l'âge d'or de leur paroisse ? Combien d'argent dépensent-ils, à même nos taxes, pour avoir l'air aussi guiré en apparence ? Surtout M. Trudeau, qui a le doigt bien alerte pour son âge. Et où sont les vieilles ? Nous sommes 6% de la population et, à juste titre, nous pouvons être considérés comme les négresses blanchies de votre système. Nous sommes assez vieilles pour voter, ne l'oubliez pas, et avec le taux de dénatalité qu'on connaît, nous prendrons le pouvoir d'ici quelques années. Alors, attention ! On n'apprend pas à une vieille guenon à faire la grimace. Nous avons connu les horreurs de toutes les guerres depuis celle de 14, nous avons pris des notes, et si nous avons l'air d'être retombés en enfance, c'est que nous avons raffiné nos moyens de subversion. C'est pour mieux vous avoir. À notre âge, prendre le maquis, c'est trop dur pour les bronches. Alors, voici nos premières revendications, parce que ce n'est qu'un début. Petit 1. Dites à vos infirmières et infirmiers d'arrêter de nous parler comme à des arriérés mentales, c'est pénible de les voir se ridiculiser ainsi. Petit 2. Dites à vos ministres qui s'occupent de notre cas qu'ils auraient intérêt à se forcer les méninges parce qu'avec le temps libre dont nous disposons, nous pouvons les harceler longtemps. Petit 3. Dites à vos députés que le chantage aux médicaments en période électorale ne vaudra plus rien à la prochaine élection parce que nous avons une cellule granola qui s'occupe de ce problème. Petit 4. Dites à vos jeunes qu'ils arrêtent de nous traiter comme une race en voie d'extinction. Ce sont plutôt eux qui sont dans cette position à force de se bourrer de junk food. Finalement, l'âge d'or est une mine d'or. Nous voulons une ristourne en tant qu'industrie florissante, une des seules en croissance par les temps qui courent. Vous êtes tous et toutes des petits vieux et des petites vieilles en puissance. On rigole bien à vous voir nous ignorer. Vous ne perdez rien pour attendre. Et si vous restez sourds à nos revendications, nous connaissons de très bonnes marques d'appareils auditifs. Nous vieillissons, mais nous veillons et nous vaincrons. À bon entendeur. Zélia Pedneaux, 91 ans, au nom du FLAC. Opération White Panthers, janvier-février 1983. Note de 1988. Comme les gens n'étaient pas habitués encore au ton de la chronique délinquante, nous avons reçu deux appels de journalistes qui croyaient que Zélia Pedneaux existait vraiment et qui voulaient l'interviewer. Il n'en revenait pas qu'une femme vieille puisse parler sur ce ton. Les préjugés sont forts. Moi, à 91 ans, je gueulerais tout aussi fort.
Elle voulait toujours, quand il y avait un combat, qu'il y ait des gens pour mener le combat. C'est une personne d'action collective. Donc, elle pensait toujours à regrouper des femmes, des gens pour promouvoir telle idée. Donc, c'était une organisatrice communautaire, on dirait, en travail social. Parce que moi, je suis un travailleur social, là. Alors, c'était une organisatrice communautaire née. Ça faisait partie de sa personnalité.
Chronique numéro 4. Y a-t-il une criminelle dans la salle ? Lettre de Calamity Jane à Monica la mitraille. Chère Monica, de moi à toi, il est très étonnant de penser qu'aussi peu de femmes aient songé, comme nous, à la seule façon payante pour une femme de travailler, faire des hold-up. Ça tombe sous le sens pourtant, mais non. Il faut toujours qu'elles suivent des chums qui ne sont pas assez brillants pour ne pas se faire prendre. Et elles se retrouvent enfermées parce que tout ce qu'elles ont trouvé de mieux à faire, c'est d'être complices. Complices d'épais et punies pour ça par-dessus le marché. Moi, je me suis toujours débrouillée seule, avec le peu de moyens qu'on avait à l'époque, cheval, carabine. Quand je pense maintenant à tout ce que vous avez sous la main pour être de meilleurs criminels, plus professionnels, des chevaux vapeur et mitraillettes. Dans mon temps, c'était l'artisanat. Aujourd'hui, c'est l'industrie, comme dans tout le reste. Maintenant, vous avez tout cuit dans le bec, du Tylenol au cruise-missile, pour les bouchers, en passant par la viande avariée et la crise économique pour les racketteurs. Plein de prétextes pour voler à portée de main. Vous pouvez même voler sans que ça paraisse trop, avec respectabilité, en fondant une secte religieuse ou en vous faisant élire député. Ou elfone. Il n'y a plus de création dans ce métier si exaltant jadis. Vous avez tout cuit dans le bec, mais vous êtes floué quand même parce qu'ils vous font entrer de force dans la criminologie. Les flics ne vous regardent plus la face, mais le bout des doigts. Dans mon temps, on pouvait laisser traîner ce qu'on voulait sur les lieux d'un crime. Aujourd'hui, vous devez faire des vols sur un stress permanent parce que si vous respirez, ils vont pouvoir identifier l'air qui sort de vos poumons. Plus d'aventure. On découvre les coupables sous un microscope plutôt que de les pourchasser sans relâche sur des pistes désertiques. Vos portraits sont imprimés partout et vos têtes ne sont plus mises à prix tellement elles ne valent plus rien. On ne veut même plus de vous dans les prisons parce que vous coûtez trop cher à faire vivre. Le seul moyen pour vous de faire du cash solide, c'est d'écrire un livre sur vos aventures passées. Et encore. Il paraît qu'ils vont donner des droits d'auteur aux parents des victimes pour les dédommager. Il n'y a plus de liberté d'expression, c'est à vous dégoûter de la vie. Maintenant, où je suis, je peux relaxer, écrire à ma fille, lui envoyer des recettes. Je n'ai plus besoin d'argent. L'action me manque un peu, mais je vis dans l'espoir de voir naître un jour une véritable criminelle, authentique, qui n'aurait pas froid aux yeux et au reste, sans cœur, calculatrice. Une winner, quoi. Et si ça ne vient pas assez vite, je me choisis un corps et je me réincarne au plus sacrant. Elles sont trop sentimentales à mon goût. De tout cœur avec toi, ma sœur, donne vite de tes nouvelles. Calamity Jane Pedno. Postscriptum. Aurais-tu, toi aussi, des projets de réincarnation? On pourrait peut-être s'associer. Mars-avril 1983. Note de 1988. Toutes mes excuses à Martha Jane Canary, Calamity Jane, et à ses descendants et descendantes pour avoir écrit qu'elle était une bandite. Erreur fatale. Elle était tout le contraire. Mais elle a vécu libre comme un homme à une époque où les femmes étaient harnachées. Alors évidemment, les rumeurs de toutes sortes ont circulé à son sujet. Comme maintenant, quoi. Vous venez d'entendre des chroniques délinquantes de La vie en rose de Hélène Pedno, ainsi que des éléments d'entretien avec Francine Pelletier et Gérald Larose. Redécouvrir Hélène Pedno, une série de balados proposés par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.